Gaëtan Bespierre, sociologue. Je trouve ce débat très intéressant. Je vais essayer d'apporter ma contribution à partir d'un cas que j'ai traité dans ma thèse, qui est la rénovation des copropriétés, la rénovation énergétique. Donc, pareil, on a d'un côté des professionnels qui vont gérer l'immeuble, qui vont faire des choix, et puis de l'autre côté, des usagers, des habitants, qui sont chez eux, qui utilisent leur équipement. Et donc, dans les copropriétés aujourd'hui, il y a très peu de rénovations énergétiques qui se font en comparaison du logement social ou même des maisons individuelles. C'est un peu le secteur qui est en retard. Moi, je suis allé voir des copropriétés qui avancent, qui ont fait des travaux, qui étaient en cours de travaux. Et en fait, qu'est-ce que j'ai observé? C'est que, à côté du modèle de décision classique, où finalement on a un syndic qui est un peu le tuteur légal, qui va être plus que prescripteur des décisions, et ben, dans ces copropriétés qui rénovent, on voit que les usagers en fait reprennent la main sur la gestion du bâtiment. Hein, donc là, on a parlé du pouvoir, en fait. Ils reprennent la main, c'est-à-dire qu'ils font le travail à la place des professionnels, des gestionnaires. Donc il y a ce premier aspect-là, c'est-à-dire qu'ils reprennent la main sur les décisions. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a une acculturation qui se fait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, à la base, partent avec une vision « le chauffage, c'est simple, il suffit de tourner le bouton et ça fonctionne », et qui, en fin de processus, vont vous parler des différences entre inertie, isolation, vont vous parler paroi froide, pont thermique, etc. Voilà. Et donc, il y a ces deux aspects que je trouve intéressants. Donc, en effet, à mon avis, il ne faut pas avoir une vision disant qu'il y a des concepteurs, des maîtres d'ouvrage et qui maltraitent finalement les usagers à travers la technique, même si dans certains cas, par exemple dans le logement social, on voit que les habitants là ont beaucoup moins de marge de manœuvre. Et je pense qu'il y a une question centrale, c'est en fait comment les usagers peuvent reprendre la main sur la gestion du bâtiment, la gestion des techniques. Et autant dans l'existant, j'ai pu voir des choses, dans la rénovation, j'ai pu voir des choses à ce niveau-là, autant dans le neuf, là, je me demande en fait quel dispositif organisationnel, puisque par définition, on construit un bâtiment qui n'est pas adapté. Hein, et donc, qu'est-ce qu'on peut inventer comme dispositif organisationnel qui va ensuite permettre aux usagers d'avoir une marge de manœuvre sur la gestion du bâtiment? Ce n'est pas vraiment une question.
Donc, pour l'enjeu, il y a un mot. Alors, oui, ce que tu disais, les usagers rentrent dans la boucle et essayent, sont pas passifs par rapport à les techniques qu'on leur a imposées. Ils adhèrent quelque part au modèle dominant en revendiquant des formes de reprise en main, en quelque sorte, qu'on essaye quand même de leur retirer. Mais c'est quand même un peu ambigu tout ça, parce que est-ce qu'ils les utilisent après? Voilà. Est-ce qu'ils les utilisent concrètement après? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Il y a quand même cette tentative de délégation à la technique. Plus les systèmes sont sophistiqués, plus on a tendance à déléguer en quelque sorte à la technique, aux gestionnaires, aux techniciens. Et là, ça pose une autre question de démocratie, puisque on s'aperçoit que ce modèle produit un petit peu d'exclusion sociale ou renforce les exclusions sociales, à la fois par le coût, parce que ça coûte cher de faire des économies, et puis par la culture technique, c'est-à-dire la compréhension de systèmes complexes, de manière à pouvoir agir dessus. Donc déjà, le fait d'agir sur ces systèmes complexes nécessite un minimum de culture technique pour comprendre leur fonctionnement.
Alors, on voit bien que le passage d'un régime à l'autre, un régime de reprise en main ou d'empowerment, je ne sais pas comment on qualifie ça, parce que tous les termes sont glissants et dangereux, de prise, de conquête de prise, moi je dis, par des acteurs qui n'étaient pas prévus au programme. Je veux dire, si aujourd'hui vous allez interroger les paysans Vous citez des lieux, etc. Sur les biotech, ils en savent plus que pas mal de chercheurs financés par les organismes publics, etc. Enfin bon, il y a une vraie une passion des choses qui se développe, qui n'est pas simplement un amateurisme, qui peut aller jusqu'à la virtuosité et l'érudition, et qui fait que dans certaines scènes d'action critique, on voit surgir. Donc effectivement, moi, j'ai des cas de copropriété comme ça, je ne les ai jamais systématisés pour ne pas tout faire, où c'est parce qu'il faut virer un syndic qu'il y a une motivation suffisante dans un groupe de gens pour aller chercher les appuis techniques pour mettre en faute le syndic sur son incompétence dans le choix de l'architecte, dans la décision. C'est pour ça que je suis baladé sur un toit pendant des jours et des nuits, alors que je ne serais jamais monté sur le toit d'un immeuble si je n'avais pas eu besoin de virer un syndic qui m'avait particulièrement humilié dans une réunion. Donc voilà des situations, par exemple, où il y a une dynamique de conquête du pouvoir ou de renversement de rapport de force, plutôt, qui va amener à soit à critiquer des choix techniques, soit à pénétrer à l'intérieur pour en avoir une meilleure maîtrise que celui qui prétend avoir la maîtrise, et ça va finir par produire des effets feedback sur la distribution des sociales techniques, parce que justement, ce n'est pas des pratiques sociales, ça remet, c'est des configurations critiques qui vont supposer en donner une maîtrise technique. La contre-expertise se construit souvent dans ce genre de processus. Mais la question de fond qui reste et qu'on ne tranchera pas aujourd'hui, c'est de savoir si est-ce que c'est du coup renforcer le système technicien ou est-ce que c'est au contraire en construire socialement les limites, c'est-à-dire en pointer précisément publiquement et en rendre visible la folie ou les abus, etc. Mais je crois qu'on doit rester, en tant qu'une sociologie un peu pragmatique telle que je viens pratique, ouvert sur ces deux options. Il n'y a pas, à mon avis, un régime qui l'emporte sur l'autre. C'est constamment en tension et en friction. Et on le voit bien quand il s'agit, moi j'ai beaucoup travaillé sur la fraude, j'ai même beaucoup travaillé sur la contrefaçon, la fraude, le faux, tout ce que vous pouvez imaginer. Je lance on devrait faire un concours, aucun dispositif n'est inviolable. Et il y a toujours quelqu'un pour proposer une solution pour empêcher de faire la carte bancaire machin inviolable, le site de l'Elysée inviolable, pardon, excusez-moi, moi j'ai pris ça comme exemple, enfin je veux dire la sécurité totale, quoi. Hein. Là, sur la sécurité, vous avez quand même très vite des acteurs qui vous expliquent que non. Et le nucléaire fait la découverte de ça. Vous regardez le dernier avis de l'autorité de sûreté nucléaire qui commence en disant « Nous savons désormais qu'un accident grave est toujours possible ». Bon, avant, il disait quand même, mais dans les coins. Parce qu'il fallait justifier l'appareillage de surveillance, sinon il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'autorité de sûreté nucléaire. Si. Mais c'était une probabilité qui était faible. Donc on est sévère avec les exploitants, tout le monde fait de son mieux, il n'y a que de la bonne foi dans tout ça, mais bon, là, c'est mis en exergue. Donc ça veut dire quand même qu'il y a bien un renversement, à un moment donné, du système technicien sur lui-même. C'est-à-dire que si vous mettez ça sur la place publique, ce qui est le cas, vous donnez quand même des billes à ceux qui disent il serait peut-être temps de sortir du nucléaire, par exemple. Enfin, vous voyez. Donc, il y a bien quand même les deux en même temps se construisent. Et je crois qu'il faut... Voilà.
Alors, ce qu'on voit aussi, peut-être mal exprimé, de toute façon, effectivement, la technique a besoin de l'usage. Hein, et qu'il y a tout ce travail de l'habitant pour que la technique fonctionne. Effectivement, il y a cet idéal ou cette utopie partagée largement quand même par les concepteurs et les habitants, mais ce modèle de l'habitat économe a besoin du travail de l'usager pour fonctionner, c'est-à-dire occulter les fenêtres, ouvrir les fenêtres ou les portes quand il faut, de manière à faire circuler l'air, etc. Voilà, il y a besoin du travail de l'usager, parce que fondamentalement c'est une coproduction entre la performance énergétique et le confort, est une coproduction entre les humains et la technique. C'est pas la technique tout seul, et ce ne sont pas les humains tout seuls.
On a suscité des vocations. Donc, je ne sais plus qui est en premier.
Moi, c'est vraiment sur la discussion, pour continuer sur la notion de résistance à la technique. Et c'est super intéressant, mais c'est, enfin, il y a peut-être un impensé, c'est aussi le fait que cette résistance, elle est souvent une action collective, et donc vient bousculer un intérêt. Donc quand c'est le cas d'une copropriété, il y a un syndic qui existe. Quand c'est le cas d'un métier, il y a des syndicats, ainsi de suite. Mais les habitants, le syndicat des habitants n'existe pas en niveau individuel. Donc, difficilement, donc, enfin, pour travailler aussi sur ces questions de bâtiments économes, la résistance a beaucoup de mal, si on peut l'appeler comme ça, et donc les pratiques alternatives qui viennent nourrir la technique, a peut-être beaucoup plus de mal à émerger et à apparaître collectivement, parce que le nucléaire ou les OGM, bien sûr que oui, on a des réseaux, on a le groupe des gens qui vont militer contre les fenêtres qui vont s'ouvrir dans les maisons individuelles, il n'est pas. Enfin, c'est l'aspect collectif et donc peut-être l'aspect quotidien, l'aspect sur lequel c'est pas un acte très militant, c'est pas un acte. Ça devrait l'être, hein, mais c'est pas très politisé la technique en maison individuelle, c'est peut-être moins vendeur que le nucléaire ou les OGM, et donc c'est aussi peut-être pour ça que ce réseau apparaît pas. Je dis pas que ça n'existe pas, mais la visibilité ou l'existence de cette résistance qui serait collective est peut-être plus difficile à établir. C'est juste.
Avant de continuer à l'écrire, juste un retour, parce que entre ce que vous dites et mon voisin de droite, là où je ne vous suis pas, c'est que vous êtes relevisé. Cette question-là sous le prisme du rapport de pouvoir. J'ai du mal à. Je ne suis pas sûr que ça soit la focale la plus pertinente parce que les usagers, de fait, délèguent une partie de leur pouvoir de décision et le choisissent. C'est-à-dire quand vous signez un bail, quand vous faites un achat, quand vous rentrez dans une copropriété, vous le savez, vous connaissez les règles du jeu. C'est-à-dire. Et en plus. Vous le faites sciemment, vous prenez un syndic, prenez cet exemple-là, personne, il n'est pas obligatoire de prendre un syndic dans une copropriété. Vous pouvez... Vous pouvez assurer. Donc, vous déléguez ce pouvoir de choix d'un certain nombre de solutions techniques, parce qu'effectivement, et même, je dirais, le niveau de perfectionnement de la technique, vous le choisissez, je vais partir de ce point de départ du raisonnement, on va y arriver... parce que vous estimez, vous déléguez, c'est-à-dire le temps que vous y consacrez, l'énergie que vous y consacrez, la réflexion, les acquisitions de savoir, ce que j'appelle moi le coût social, c'est-à-dire à la fois le capital social, le capital temps que vous engagez pour faire ces choix-là, ben finalement vous ne voulez pas. Vous payez quelqu'un, vous déléguez cela différemment à quelqu'un en le payant autrement que sous forme financière directe. Et puis à un moment, effectivement, celui à qui vous déléguez, ça peut être l'architecte, ça peut être le bailleur, ça peut être le promoteur auprès duquel vous achetez, qui a une fonction sociale, celle de constituer votre logement tel que vous allez l'acheter, il fait des choix qui finalement ne vous conviennent pas. Mais à ce moment-là, vous lui retirez cette délégation-là. Vous voyez, donc la focale qui est le rapport de pouvoir me semble un peu occulter, mettre l'usager dans une position tout de suite de quelqu'un qui va constituer, qui doit se constituer une position dans un rapport de pouvoir, alors que c'est lui qui, certes, une construction sociale, mais il est dans ce rôle-là au moment où il achète, au moment où il loue, le moment où il fait construire, où il fait réhabiliter, etc. etc. Et donc, il a choisi de déléguer une partie de ce pouvoir de choix, et à un moment, quand les choix techniques qui sont opérés ne lui conviennent pas, ou par ailleurs, quand les choix techniques auxquels il. Qu'il accepte à un moment ou à un autre, lui enlève une partie de ses capacités d'usage, de régulation, de son propre lieu, etc., il intervient. Il intervient en bricolant, en cassant, en enlevant les boutons, ou en réajustant autrement, ou en mettant dehors son architecte, ou son syndic, ou, etc., etc. Donc, la construction en rapport de pouvoir me semble moins pertinente que la construction en. Usager qui va déléguer une partie de son pouvoir de décision et à un moment la reprendre, même si c'est une question de construction sociale, un peu standard, donc on reproduit, et à un moment on ne reproduit plus, on n'accepte plus que telle ou telle chose soit décidée à notre place et on reprend. Mais ça veut dire un coup. Ça veut dire effectivement des savoirs à prendre. Et aussi, parce que c'est ce qui est ambigu un petit peu dans la discussion qu'on a, il y a un peu de jugement de valeur. Dans le fait que, par exemple, les habitants doivent faire l'effort d'apprendre à utiliser certaines techniques. Quand vous regardez la sociologie des techniques ou l'histoire des techniques, ça a toujours été le cas. On a fait l'effort d'apprendre à manipuler différemment, très concrètement, différemment. Donc il y a un coup. Et donc, enfin, voilà, ce qui me gêne un peu, c'est parce qu'il y a parfois des petites. Alors l'idée, par exemple, serait pas, en tout cas, je mésinterprète un peu les propos, qui qu'il y aurait, que ce serait négatif que ça soit une utopie ou qu'il y ait des dimensions un peu mythiques, voire même fétichistes dans le choix des dispositifs techniques. Je ne vois pas. On fait des choix également dans un rapport, je dirais, esthétique, ésotérique, un certain nombre d'objets qui font partie de notre environnement. Quand vous voyez les ordinateurs et les téléphones, on les choisit vraiment pas pour la fonctionnalité. On sait pertinemment qu'on utilise 5% des fonctionnalités dessous de tous ces appareils. Donc il y a aussi ce rapport-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ou demain et encore demain, il y aura un certain nombre d'usagers qui vont accepter des dispositifs techniques qui ne correspondent pas tout à fait à leurs usages habituels parce qu'ils correspondent à la manière dont ils se projettent comme étant un objet moderne, un objet contemporain, un objet qui correspond à leur classe sociale, etc., etc., même s'ils vont le mettre dans un coin chez eux et qu'ils vont le regarder parce qu'ils vont se chauffer autrement. Donc je crois qu'il y a une dimension aussi de cet ordre-là qui peut être partagée, et là, on le retrouve par à la fois les concepteurs et les usagers, même si de point de vue de l'usage stricto sensu, comme l'aborderait un spécialiste de l'usage, du design de l'usage, etc. Et donc, ça, moi, efficacité zéro du point de vue d'usage, mais tout de même, ces objets, ils vont être installés, acceptés, payés, mis dans tout le processus de production et de conception. Finalement, j'ai été beaucoup plus lent que je pensais.
Peut-être deux petites remarques sur la délégation, c'est aussi la délégation du travail, c'est du travail. On a observé également des maisons autonomes, etc. C'est du travail à temps plein. Hein, on a rencontré des gens, c'est du travail à temps plein. Donc effectivement, c'est plus facile de déléguer à la technique, etc. Et deuxièmement, sur les mythes, c'est pas un jugement de valeur. Les mythes sont pas forcément faux, et on vivra très bien dans les boîtes étanches. La notion de mythe, ça renvoie à la forme du discours, en quelque sorte, hein, qui a des recettes toutes faites, des choses comme ça, qui n'interrogent pas les relations de causalité, hein, donc qui occultent un aspect important, hein, c'est la co-construction de la performance. Donc, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est simplement un mode de fonctionnement cognitif d'un raisonnement.
D'accord.
En tant qu'urbaniste, je fais partie de la chaîne qui conduit à construire durable. Et la question que je me pose, vous avez évoqué l'hypertrophie de l'amont pour ce qui concerne l'ingénierie de conception et ensuite l'ingénierie de régulation. Et il y a encore plus d'amont, c'est celui qui fait des réglementations. Parce qu'après tout, l'ingénieur, lui, il met en pratique, avec son savoir, peut-être en faisant trop appel à des mécanismes de régulation complexes maintenant qui sont difficiles à maîtriser, des réglementations qui sont pensées comment, de quelle manière, avec quel impact. Quand je fais un projet, on me demande de faire une étude d'impact, et je constate que pour la mise en œuvre de technologies extrêmement lourdes dans leurs conséquences sur la vie sociale, en général, je ne suis pas sociologue, je ne sais pas les mesurer, il n'y a rien. On lance comme ça des réglementations thermiques, pour mieux les évoquer. Il se trouve que moi, j'ai deux réglementations thermiques, puisque je travaille outre-mer. J'en ai qui sont d'origine nationale, et puis d'autres qui sont d'origine régionale, qui viennent se superposer. Ça devient relativement inextricable, avec par surcroît des interdictions extrêmement lourdes de conséquences, comme par exemple... refuser d'installer la climatisation. Voilà. Donc, cet amont-là, comment est-ce que vous le gérez, vous, celui de la prescription?
On n'a pas tellement étudié ça. Hein, effectivement, c'est tout à fait intéressant, même fondamental, hein, la forme de production, hein, des réglementations thermiques, etc. Nous, effectivement, dans notre travail, on le prend comme une injonction, hein, et on voit ce que ça produit et comment les acteurs s'en emparent ou s'en emparent pas, etc. Mais j'avoue qu'on n'a pas fait beaucoup de choses sur le mode de production, hein, de ces réglementations.
Vous êtes les plus proches de ceux qui prennent ces décisions, ouais, qui font les réglementations. Je vous interprète. Oui. Moi, je le fais aussi de mon côté, en passant d'ailleurs quelquefois bien outre de ce qui m'est demandé de manière réglementaire. Hein, je l'oublie.
Attention. destruction du
public. Je vais rebondir un peu en arrière par rapport à la discussion que plus largement sur le papier de Christophe Bellet. Bon, c'est des discussions qui sont un peu anciennes avec Christophe, Romain et Marie-Christine, donc c'est, je les remets là-dedans. Moi qui travaille aussi sur les questions de maîtrise de l'énergie, mais on a une dualité classique, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur les techniques et les quelques-uns qui travaillent sur les usages. On le voit chez les politiques, on le voit chez les concepteurs, les communicants, qui vont communiquer d'abord sur de la technique, communiquer pédagogiquement, comme j'en parlais hier matin, sur les bons usages, sur les bons gestes, etc. Donc, c'est une vision de plutôt sociologue des usages sur ces questions-là que j'ai. Déjà, ce qui me semble intéressant dans ce que disait Christophe et qui me renvoie à d'autres conceptions, tu parles notamment de standardisation de recettes éprouvées pour avoir suivi des programmes de maîtrise de l'énergie mis en œuvre à l'échelle locale. On voit typiquement ça, la recette éprouvée, c'est ce que les politiques appellent le santé dépendance, cette capacité à remettre en place, surtout avec l'histoire particulière en France du choc pétrolier, avec toute une politique de maîtrise de l'énergie qui s'est construite dès 1973. Aujourd'hui encore, on voit largement la reproduction de choses et qui sont assez frappantes, qu'on reproduit à l'infini les mêmes erreurs jusqu'à l'absurde. Le lancement dans des nouveaux matériaux qui s'empilent les uns par-dessus les autres, en éco-matériaux, on a des exemples qui sont assez intéressants là-dessus. Forte incitation au développement d'éco-matériaux très rapidement, avec aucun retour sur le long terme, un peu comme si on mettait sur le marché des médicaments après d'avoir à peine testé 3-4 jours sur des rats. C'est assez paradoxal, avec des vrais échecs qu'on a vus. Je me souviens, j'ai démarré ma thèse en 2004, les premiers retours sur des expérimentations chaud-chambre avec les isolations qui s'effondraient dans les murs. Ceux qui avaient voulu se jeter là-dedans étaient consternés, quoi. Ils avaient investi cher dans des technologies qui ne fonctionnaient pas. Il fallait un temps de séchage très important. Depuis, ça s'est amélioré, mais n'empêche, hypertrophie, elle est aussi hypertrophie créative, c'est-à-dire cette espèce d'incitation à créer, elle est assez intéressante. Et on voit des choses, on va reparler de démocratie technique à travers ça, à la fin des années 70, l'AE, l'ancêtre de l'ADEME, avait confié des études à Michel Canon sur le véhicule électrique. Les problèmes qui se posent aujourd'hui sur le véhicule électrique pour l'autolib à Paris, où on est en train de vouloir lancer un principe d'autolib avec des grosses incertitudes sur d'éventuels dangers inflammables, mais il faut le faire vite. Alors on voit bien la difficulté d'être à la fois mise en marché rapide, création, innovation, et en même temps, on est complètement sur des choses qui ne sont pas durables, parce que finalement, qu'est-ce qui caractérise le véhicule électrique? C'est son échec durable. C'est que ça fait 30 ans qu'on a des recherches dessus, recherches scientifiques, recherches techniques, mais recherches sociologiques. C'est-à-dire que une partie des causes, des soucis, sont identifiés depuis, je crois que les études à Calan, ça va être 78-79, donc on est quand même sur des choses qui sont quand même assez anciennes. Et je vais peut-être juste faire une jonction vers Carina Izquierdo. Quand j'écoute Christophe, quand tu parles d'utopie technicienne, j'aurais plutôt tendance à te dire, est-ce qu'on est vraiment dans l'utopie technicienne? Moi, je vois plutôt une utopie réticulaire dans le travail de Carina. Je vois quelque chose de très concret dans les matériaux, dans la volonté de mettre en place tout un tas de techniques dans le bâtiment, là où cette appropriation du réseau et cette façon de travailler autour du design participatif, etc., me semble plus abstrait. Finalement, je vois plus l'utopie là, et chez ce que tu décris, Christophe, plutôt quelque chose du type le wrong way, on suit une fausse route, on continue de suivre un sentier de dépendance qui est probablement pas le bon. C'est un peu confus, mais...
Je vais d'abord répondre un peu à Gaëtan, je demandais quel dispositif organisationnel était possible dans du neuf. J'ai l'exemple d'une coopérative habitante sur du logement social à Nanterre, ça s'appelle le Grand Portail, c'est 15 logements, ça a été aidé par la mairie, et on a exactement le même rapport à la technique que celui que tu décris, dans le sens où les habitants s'impliquent dans un rapport avec le promoteur, ils sont montés en puissance sur un langage technique de pont thermique et de matériaux, d'isolation. Il y a exactement ça aussi dans du neuf, donc c'est possible avec ce genre de dispositif. Et ça m'amène à interroger l'idée d'écologie. Monsieur Bellet, je n'ai pas retenu exactement l'intitulé de votre papier, mais qu'est-ce que vous appelez écologie finalement? Comment vous avez sélectionné les bâtiments que vous avez étudiés? Parce que une intuition peut-être, ça serait que pour moi l'écologie, ce serait l'implication justement des usagers dans la conception de leur habitat. Et ça mène la question aussi pour moi du low-tech et du high-tech, parce que là on part de l'idée que la technologie, mais justement pour pouvoir pour qu'il y ait une implication, est-ce que peut-être il ne faut pas simplifier ce système technologique et revenir vers la technique ou l'enseignement, et puis la technologie dans un contexte de restriction des ressources. Voilà.
Je ne pense pas avoir parlé beaucoup d'écologie.
Justement, en fait, c'était économique dont je parlais, c'est ça.
À un moment donné, j'ai évoqué effectivement une logique écologique qu'on pouvait effectivement observer parmi les pionniers expérimentateurs qui construisent leurs maisons bioclimatiques, etc. Et eux, effectivement, qui étaient mus par une logique écologique, on trouvait aussi dans les pionniers des gens qui étaient dans une logique technique, d'expérimenter, de jouer, de bricoler, etc. En disant que maintenant, on n'était plus là-dedans. Hein, on était plutôt dans une logique économique, faire des économies d'énergie, etc. Mais on n'est plus dans une logique écologique. Enfin, on ne l'observe pas. Alors l'utopie, c'est d'essayer effectivement d'atteindre cette performance, sobriété énergétique derrière laquelle on court, sans remettre en cause du tout. L'ensemble d'un modèle social consumériste, etc.
Ouais, je pense qu'il y a plein de problèmes qui ont été soulevés là qui mériteraient vraiment d'être remis par écrit parce qu'il faut commencer à enregistrer. Donc on va toujours utiliser les bandes pour retravailler. Je ne sais pas à quelles conditions ça sera rendu collectif. C'est assez facile avec un FTP, n'est-ce pas ? Un débit correct si on veut télécharger tout ça. Mais je pense qu'il faut bien voir que selon la manière dont on est face à l'objet technique, on n'a pas du tout les mêmes anthropologies, les mêmes sociologies qui sont convoquées. Moi, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué depuis une vingtaine d'années, c'est la rupture des routines, ce qui est une technique d'analyse classique en sociologie, c'est-à-dire je m'intéresse au moment où tout à coup, ce qui allait de soi ne va plus de soi, et où des machins totalement oubliés, devenus transparents, donc des objets oubliés, un ascenseur par exemple, ou une tour à Rio, qui c'est bon, un truc absurde, un truc qui s'effondre, enfin, ça n'arrive jamais, n'est-ce pas ? On voit bien que l'accident, par exemple, ou la rupture de fonctionnement, c'est-à-dire, ça ne répond pas, donc, va susciter de la part des acteurs toute une gamme d'attitudes qui consistent à laisser tomber l'objet, le nombre de trucs qui traînent dans les remises, qui n'ont même pas été voir le service après-vente, de SAV, etc., parce que justement il y a une espèce de saturation, parce que l'hypertrophie provoque aussi une espèce d'abandon de l'investissement de l'objet, jusqu'au bricolage, rattraper le truc en montant des machins, etc. Là aussi, il y a toute une casuistique sur la manière de détourner un réseau électrique, enfin, je sais pas, un réseau informatique, un réseau d'eau. Enfin, moi, je me rappelle un copain qui avait monté un compteur d'eau à l'envers, enfin, c'était quand même extraordinaire.
Il vendait
de l'eau à. Ouais. Il a fait gaffe parce que ça pouvait se voir, donc il avait monté à l'envers par erreur, mais évidemment ça l'a rendu compte sur ses factures, bah, idiot. Et donc il a eu un comportement stratégique qui consistait à effacer par son usage de l'eau le fait qu'il vendait de l'eau au réseau d'une certaine manière, effectivement du point de vue comptable. Enfin, c'était quand même complètement absurde. Et donc on a comme ça des situations de découverte des propriétés des objets, y compris dans les milieux les plus sous contrôle. Là, j'ai fait un article récemment qui n'intéresse pas grand monde, à part les antinucléaires, sur le corium. Le corium, c'est donc l'espèce de magma d'état en fusion quand un cœur a fondu. Il se trouve que jusqu'à présent, il n'y avait qu'un laboratoire qu'on avait ça, notamment au CEA, évidemment. Ils avaient fait des petites manips avec un crayon radioactif. Il y avait une simulation de réacteur. Et là, à Fukushima, ils ont fait une vraie expérience en nature. Il y a trois cœurs qui sont passés à travers, sous le radier, comme on dit. C'est-à-dire, et dessous, on ne sait pas ce que c'est. C'est une espèce de lave volcanique, bon, en train de se cristalliser, mais enfin, à haute teneur radioactive. Et donc là, on a des gens qui sont... Il y a une vidéo que j'ai mis, de l'IRSL, que j'ai mis sur ce billet, où le type est incapable de vous décrire ce que c'est. Il dit, ou alors gros, enfin vous voyez quoi, c'est un truc. Enfin, on a un mec qui est payé à plein de temps pour analyser ça en laboratoire. Et là, il est incapable de décrire la matière, l'objet. Donc il y a effectivement création de ces moments. Et selon donc, comment surgit l'objet technique, je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes choses. Donc la maison économe, je pense qu'elle va avoir forcément une trajectoire de ce type. C'est-à-dire effectivement, elle va se produire des événements qui vont générer des fédérations d'acteurs qui vont croiser des expériences, comme sur plein d'autres choses. Je pensais à une autre chose, mais c'était plus par rapport à la fenêtre qu'il fallait pas ouvrir. C'est la pollution intérieure qui est devenue une contrainte très forte. Et où on vous dit ouvrez les fenêtres, je ne sais pas combien de temps. Donc là, on est vraiment dans le paradoxe. Et la pollution extérieure, vous prenez les travaux de Charbonnin, par exemple, vous parlez beaucoup là-dessus, il y a maintenant des réseaux de nez. C'est-à-dire des gens, comme pour les ornithoguetteurs, qui vont aller se positionner à certains endroits des villes pour renifler, sentir, et faire des comptes rendus olfactifs et sensitifs, pour essayer de recalibrer, de contester en même temps, tout en les travaillant, les instruments métrologiques mis en place par des trucs, justement, à Paris, enfin, on voit bien. Et donc, on voit bien qu'il y a toujours l'autre qui arrive, mais toute la question est sur quel mode.
Oui, oui, parce que voilà, notamment, c'est résolu.
C'est pas que du rapport de pouvoir, ça peut être des surgissements, ça peut être des enquiquinements qui se répètent et qui font qu'au bout d'un moment, on va chercher du secours chez quelqu'un qui connaît, etc.
Notamment ces réseaux de nez, c'est ambigu parce qu'ils sont aussi mobilisés et mis en place par les industries polluantes en mobilisant les gens du voisinage qui râlent pour en quelque sorte domestiquer les odeurs et donc faire s'abaisser un petit peu le niveau de conflictualité.
Ça, sur l'utopie réticulaire, parce que ça fait le lien avec ça sur les réseaux, moi ce qui me gêne dans la représentation cartographique en réseau, c'est une espèce de néopositivisme de la carte qui se met à proliférer, que le web a encore plus naturalisé, c'est-à-dire qu'on représente les flux d'informations sous forme de nœuds, de liens, etc. Je connais quand même assez bien ce genre d'univers. Et c'est vrai que c'est la question de qui contrôle le réseau. Parce que, au bout d'un moment, un réseau qui se déploie, il va intéresser un certain nombre d'acteurs. Et je pense que dans la théorie de l'acteur réseau, il y a une théorie du pouvoir impliquée. C'est-à-dire chez Michel Calon, c'est celui qui est quand même capable de créer le point de passage obligé et de générer des asymétries et d'amener les autres à l'alignement. On n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Et une innovation qui réussit, c'est celle qui a réussi à embarquer, à aligner des réseaux entiers finalement qui vont passer par un point. Et donc on voit qu'il y a bien un lien entre les deux logiques. C'est-à-dire que là, la question c'est l'innovateur, s'il est malin, il va intéresser les acteurs à son dispositif, et donc si évidemment ça leur rend la vie impossible, il va quand même avoir du mal à enrôler, donc ça va donner des espèces d'échecs, de pente fatale, échec technologique fatal, qui va finir par dire. Voilà, et toutes les technologies ont ces moments très forts d'essais-erreurs assez violents. Les débuts de l'aviation, c'est quand même quelque chose qui a coûté un nombre de vies humaines non négligeable. Et il y a bien un moment donné où il a bien fallu dire « mais si, on peut voler ». Parce que, évidemment, quand les gens déplacent des forces de cette nature-là, ils sont effectivement dans l'affrontement limite. Hein, Icar et compagnie. On voit ça à la fin du XIXe siècle, c'est particulièrement net. C'est pareil pour la conquête de l'espace, c'est pareil pour plein d'autres choses. Et donc on voit bien que la technique, c'est toujours aussi une prouesse, une mise à l'épreuve des limites, et qui renvoie précisément ce qui va résister des représentations au-delà d'elles-mêmes. Donc ça touche à quelque chose d'assez fondamental.
Can I just in terms of the utopianism represented in the presentation.
On est plus fort, parce que...
In terms of the utopianism represented, that was maybe I didn't make myself clear, but that was precisely what the point of my critique, the thought of that technology is going to save us all. So maybe I gave this example about urban gardens. That's more the specificity of the technical things, the more handicrafted things that have to go hand in hand with the strategies, instead of the highly technological utopianized visions of the strategies. That is one of the approaches I was just explaining, and precisely my critique was towards that.